When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
On sait aujourd'hui que la voie naturelle ne fonctionnera pas. Mais l'excellente nouvelle, c'est qu'il y a un double don qui est possible.
Maman solo, il faut savoir que c'est toujours une décision qui est mûrement réfléchie.
Je savais que j'allais avoir un enfant et un seul. Et donc j'avais prévu d'en profiter au max.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé?
T'aimer? Mais qui a dit que je dois t'aimer?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Alors Aïda, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?
Eh bien écoutez, basiquement, je viens pour parler d'une PMA, de mon projet, de mon parcours, de désir d'enfant, de maternité, voilà.
Ouais, alors qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans ce parcours de maternité ?
Basiquement et très simplement, l'horloge biologique qui a sonné à ma porte, voilà. C'est vraiment ça qui a déclenché le fait de faire un enfant seul, voilà. J'avais pas évidemment prévu ça. Je pense que au départ on veut faire ça totalement ce que j'appelle bio, naturellement. Et puis la vie, les rencontres, les occasions font que on peut pas. Donc on arrive à un moment où toc toc toc, il est 41 ans et demi. Et où des décisions doivent être prises. Voilà, c'est...
C'est quand vous avez eu 41 ans et demi que la question s'est posée pour vous de faire un enfant toute seule ?
Ouais, c'est une bonne question. Non, c'est à partir de 35 ans, je pense. Visiblement, d'après mes amis, depuis toujours. Moi, je ne m'en souvenais pas que je l'exprimais. Mais autour de 35 ans, c'est l'espèce de désir naturel. Alors, on va appeler ça hormonal. Enfin, je laisse là aux spécialistes. Mais le désir naturel a voulu de faire un bébé. À ce moment-là, j'avais une amie qui était en train de faire un parcours pour faire congeler ses ovocytes. Donc, ça m'a intéressée. Elle m'en a beaucoup parlé. Je m'y suis intéressée profondément en regardant comment ça se passait vraiment concrètement. Et en fait, quand j'avais toutes les infos, que j'avais même presque le financement, je me souviens que mon frère m'avait dit « Écoute, je suis là, donc si tu as besoin... » comme tout était possible, je me suis dit « Pas envie, en fait, je continue à faire bio, je suis sûre que ça va arriver. » Donc j'avais 35 ans à ce moment-là.
Ouais. Donc pour vous, bio, à ce moment-là, c'était l'idée de rencontrer quelqu'un et du coup d'avoir un enfant à deux.
Tout à fait. C'est le premier schéma qu'on a dans notre tête, dans notre culture judéo-chrétienne. Le temps est passé.
Ouais, comment vous avez cheminé du coup entre 35 et 41 ans et demi ?
J'ai laissé la vie passer. Donc des rencontres et puis des choses loupées. Et puis tout d'un coup, à 41 ans, j'étais avec quelqu'un qui était plutôt évasif et fuyant. Donc du coup, j'ai eu la chance. Concomitamment à cette rencontre, je faisais un parcours psy EMDR. Pour tout à fait autre chose, j'avais envie de parler d'un sujet en particulier avec cette personne. Et un jour, elle a ouvert la boîte de Pandore. Donc elle avait ouvert le désir de maternité qui avait ressurgi de manière, j'allais dire corporelle. C'est plus le cerveau qui parlait, c'était vraiment... Voilà, et donc elle m'a accompagnée, donc j'avais autour de 41 ans. Et je la remercierai jamais autant, parce que grâce à cette personne, je suis passée, elle m'a permis d'ouvrir justement tous les schémas qu'on peut avoir. Donc c'est pour ça que je parlais juste avant du premier schéma judéo-chrétien, un papa, une maman, un enfant. Super, génial, pas de problème. Et grâce à elle, elle m'a permis d'arriver jusqu'à 9 schémas dans ma tête, d'ouvrir plusieurs portes. En me demandant juste de réfléchir à quelles étaient les possibilités éventuelles que j'imaginais de ma vie future en couple, pas en couple avec un enfant, sans enfant, un couple qui a déjà un enfant, mais moi je n'en aurais pas. Je suis arrivée jusqu'à 9. La 10e était celle que je n'en aurais pas, donc c'était juste pas possible. Et c'est fou, comme quand on travaille, on peut s'apercevoir qu'on peut pousser des portes qu'on a en nous, finalement, et qu'il faut juste les accepter.
Oui, donc là, vous dites bien, Aïda, tout le champ des possibles qui s'est ouvert à vous.
Absolument,
et ouais. Du coup, sur ces 9 possibilités, quel choix vous avez fait ?
Vu mon âge, j'ai fait le choix de faire un enfant seul. Voilà, et de rentrer dans ce parcours.
Oui, et du coup, le début de ce parcours, comment il s'est passé
pour vous ? Le début de ce parcours, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, probablement parce que je savais exactement, enfin, je savais que je voulais ça. Je voulais être maman. Et donc, j'ai rencontré des personnes, évidemment, en France, notamment un gynécologue qui avait fait partie des signatures des 200 gynécologues avec le docteur Friedman. Et il m'a donné toutes ces possibilités en fonction de mon âge. Ça, c'était la première fois qu'on se voyait. Je pense qu'il a dû sentir qu'il pouvait se permettre de me dire tout et que je n'allais pas m'effondrer en sanglots parce qu'il m'a aussi parlé des doubles dons. Il m'a vraiment, il m'a dit, vous avez 41 ans et demi, vos ovocytes sont vieillissants. Enfin, il s'est vraiment permis de tout me dire. Il voulait me faire gagner du temps aussi et de l'énergie. J'avais aussi parallèlement fait des recherches sur les possibilités de dons de sperme au départ, évidemment. Et donc j'avais vu toute Londres, le Danemark, la Belgique. Vraiment, je m'étais bien renseignée. Et d'ailleurs, je l'ai fait vraiment toute seule avec mon ordinateur, jusqu'à ce que je rencontre une amie lesbienne qui, elle, avait trouvé toutes les adresses au centre LGBT. Donc, on peut gagner du temps en allant dans un centre LGBT pour avoir toutes ces adresses-là. Du coup, ça m'a confortée dans mes choix puisque, et dans mes recherches. Et je pense que le fait d'être concentrée sur le côté très pragmatique de logistique, ça m'a permis d'aller, je pense, assez vite.
Oui, c'est-à-dire entre le moment où vous avez eu cette première consultation avec ce médecin et le moment où vous êtes devenue maman, il s'est passé combien de temps à peu près ?
Je l'ai consulté en janvier. Le 21 juin, j'ai été inséminée.
D'accord.
Voilà. Et encore, j'ai perdu un mois et demi parce que dans le parcours, une fois qu'on a fait tous les examens, il m'a fait faire vraiment tous les examens que je regrette de ne pas avoir fait d'ailleurs bien avant 41 ans et demi. Merci les gynécologues qui ne vous les font pas. J'ai découvert en février donc que j'avais des trompes bouchées dans un couloir entre la photocopieuse et... On vous annonce ça comme ça. Et je l'ai appelé évidemment immédiatement, parce que ça a été un séisme retentissant dans mon corps. Et il m'a dit, Aïda, je vous avais parlé de toutes les possibilités. Voilà, on sait aujourd'hui que la voie naturelle ne fonctionnera pas. Mais l'excellente nouvelle, c'est qu'il y a un double don qui est possible. Vous pouvez faire appel à une dame qui vous donnera son ovocyte. Ça fera un embryon qu'on vous inséminera, puisque votre utérus est magnifique. Ce sont ces mots. Ça m'a permis de dépasser une première étape, je dirais, parce qu'il a fallu aussi que j'accepte et que je me renseigne sur ce que voulait dire un nouveau site qui n'était pas le mien. Et j'ai eu la chance d'écouter Jean-Claude Amezen sur France Inter un matin, qui était à l'époque... au comité national d'éthique. Il parlait de la GPA à ce moment-là, précisément, et il disait, notre problème, c'est que nous, en France, on n'accepte pas la GPA parce que pour nous, la mère porteuse est la première maman. Inutile de vous dire que je me suis effondrée en sanglots parce que j'ai réalisé que donc je serais la maman de cet enfant, même si ce n'était pas mon ovocyte. Et j'avais peur que ça ne soit pas le cas, mais parce que c'était une peur d'ignorance, tout simplement. Et à partir du moment où je l'ai entendu, j'ai dit, bon ben, voilà. Et dans ces cas-là, moi, quand je décide quelque chose, plus rien ne m'arrête. Et encore une fois, je reprécise, j'ai eu des professionnels fantastiques en face de moi. Je pense que les personnes du monde de la PMA, notamment, sont des professionnels extrêmement positifs.
Donc ça vous a porté, ce discours positif?
Bien sûr, j'avais déjà, moi, mon énergie positive. Après, il y a aussi les choix qu'on fait, la clinique que j'ai choisie, la chirurgienne obstétricienne qui est devenue par la suite ma gynécologue, qui m'a fait l'ablation des trompes, qui m'avait dit « je vais tout faire pour que ce soit clean pour accueillir votre embryon ». Donc, je partais tranquille. J'ai pris un rendez-vous en Espagne, J'y suis allée avec une amie sage-femme qui était à Montpellier et c'était bien d'y aller à deux. J'étais pas un très bon client pour cette clinique puisque j'avais fait tous mes examens en France, que je venais juste pour qu'il fasse l'acte final, finalement.
C'était quoi cet acte final?
Juste m'implanter un embryon. Point.
Comment vous avez vécu le fait de devoir aller à l'étranger?
Très bien. Très très bien. Ensuite, l'Angleterre, ça a été une de mes premières recherches. Assez vite, j'ai pas voulu y aller. C'est mercantile, on va pas se cacher, on est bien d'accord. Mais là, c'était vraiment n'importe quoi. C'était ostentatoire. D'ailleurs, le docteur Freeman opère là-bas. Ça m'a un petit peu refroidi quant à cette personne. Ensuite, il y a eu la Belgique. Et la Belgique, assez vite, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de double don. En tout cas, les deux hôpitaux, Saint-Pierre et un autre, qui étaient ceux qui étaient bons, ne proposaient pas de double don. Donc, c'était assez réglé. Et j'ai envie de dire, la vie est très, très bien faite parce que je suis méditerranéenne. Me retrouver en Espagne quand je suis sortie de l'aéroport et que j'ai senti l'odeur, j'ai dit, mais c'est évidemment là que ça doit se passer.
Comment ça s'est passé pour vous, ce moment où on vous a déposé ce petit embryon?
C'était absolument à la fois magique, à la fois très étrange, parce que tout se passait encore une fois très 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 bien depuis l'ablation. Il y avait un timing pour faire une piqûre, donc en gros j'ai eu une piqûre. Ensuite, il fallait attendre tant de jours, très bien. Et ensuite, ils m'ont appelé, ils m'ont dit dans 5 jours, il faut que vous soyez là. Mon cœur a battu, c'était extraordinaire. Je ne sais pas ce que c'est que d'adopter et d'avoir un enfant dans les bras quand on adopte, mais quand on vous appelle pour vous dire c'est le moment, c'est... Il faut laisser le corps vivre parce que c'est extraordinaire. J'avais prévu d'y aller avec une amie. Et donc, voilà, j'avais prévu un hôtel palace pour être très, très bien. J'avais aussi été suivie, ça c'est important, dans mon parcours, par une acupunctrice spécialisée en PMA. Il y en a 4 à Paris. Et voilà, et donc je suis arrivée à Barcelone et j'avais prévu, 1 heure avant, d'aller dans un centre naturel qui me préparait le nid, comme on dit, d'accord, en acupuncture. Ensuite, j'allais chez Eugène, que beaucoup de gens connaissent. Ils m'ont fait une présentation sur un papier de l'embryon. J'ai trouvé ça très, très drôle. Parce qu'en général, les gens montrent leurs échographies. Moi, j'ai carrément l'embryon. Et ensuite, ça prend exactement 5 minutes, 8 minutes maximum, avec des gens charmants. Vraiment charmant. Et la magie, ouais, c'est vrai que c'est très médicalisé, mais il faut essayer de se détendre. Parce que quand vous êtes juste à côté du congélateur, ou je sais pas, où il y a les biologistes qui attendent le top de... Alors, c'est une gynécologue, je crois. Et en fait, il y a le biologiste qui arrive avec sa pipette, tout son masque et tout. Et ensuite, c'est déposé. Et on vous dit, voilà. Reposez-vous 1 minute et puis vous pouvez aller vous changer. Et juste ce soir, ce serait bien de rester encore là. Vous reprendrez un avion demain, ce qui était évidemment prévu. Et je suis retournée dans cette clinique naturelle. Ils m'attendaient pour mettre la couette, fermer la chambre. Et c'est symbolique, mais voilà, ils m'ont refait de l'acupuncture, pas sur le ventre bien sûr, mais ailleurs, pour justement détendre et faire que... le nid soit au calme. Voilà, j'ai repris ma vie le soir tranquillement et le lendemain je suis rentrée à Paris et 6 semaines plus tard j'ai fait la fameuse prise de sang pour savoir si ça avait marché et ensuite vu que c'était positif il y avait la première échographie pour entendre le cœur. Voilà.
Comment s'est passée la grossesse?
Merveilleusement bien, en plus. Physiquement formidable jusqu'à 7 mois et demi à peu près. parce que le mois et demi dernier, j'ai eu des petites complications de canal carpien. Ça m'a embêté, vraiment. Je ne vais pas dire le contraire. Mais sinon, moralement, ça allait. C'est juste que je ne pouvais plus dormir très bien. Donc, ce n'est pas très agréable. Et j'ai voulu un jour aller faire un monitoring parce que la veille, j'avais un peu mal dormi, j'avais problème de respiration. Et je suis arrivée là-bas et on m'a dit, bon, vous êtes à 16 de tension, vous faites une pré-éclampsie, on va vous garder. et on va vous le déclencher. Donc, c'était 15 jours avant seulement le terme. Donc, la grossesse, je voudrais juste te dire quelque chose d'important, c'est que non seulement, il faut savoir que ma famille entière et mes amis ont accueilli la nouvelle avec un bonheur. Tout le monde était content. J'ai même eu des « on l'attend déjà ». Ça, c'est une des plus belles phrases que j'ai entendues. Ça m'émeut parce que c'était super. J'avais pas trop de doutes, mais on maîtrise pas le sentiment des gens. C'est chouette d'avoir vécu ça. C'est beaucoup d'amour, vraiment.
Tout ça, ça vous a aidé aussi finalement à construire ce nouveau projet familial, en tout cas de construire cette nouvelle vision de faire famille. Et voilà, en tout cas, j'entends dans ce que vous dites là peut-être l'importance aussi de tout cet accompagnement autour, tant des professionnels que de vos proches, de vos amis, de votre famille. Et finalement, c'est très chouette et c'est merveilleux que les choses se soient passées comme ça.
Et j'ai pendant la grossesse, pour finir ce moment-là, j'ai eu la chance encore une fois de rencontrer une super personne qui m'a parlé d'une doula. Au début, j'ai fait « ouais, je vais la rencontrer, ça va être sympa, bon, très bien ». Au départ, j'avais juste prévu qu'elle m'accompagne un petit peu. Et ensuite, un jour, pareil, ça m'est tombé dessus, j'ai dit « je veux qu'elle soit là pour l'accouchement ». Parce que je ne souhaitais pas du tout que ce soit ma maman, même si ça se passait très très bien. Je voulais redonner en tout cas la place de grand-mère. Et il se trouve que dans les 48 heures de déclenchement de l'accouchement, elle a dû partir 4 heures, et ça a été les 4 heures où j'ai accouché, il y avait ma maman. Et ça s'est très 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 bien passé. Mais cette doula, pendant ces 48 heures-là, m'a prodigué, entre guillemets, des soins physiques, parce que ça n'est pas du tout une sage-femme, elle n'est pas médicalisée, c'est très important de le dire aux familles qui peuvent y avoir besoin, ou aux sages-femmes. Attention, chacun son précaré. En revanche, elle prend le temps avec la maman et la famille que la sage-femme, hélas, n'a pas le temps de prodiguer, parce que les sages-femmes ont beaucoup de boulot. Et donc, elle m'a permis d'être l'animal que je souhaitais être, entre guillemets, pour accueillir le plus naturellement possible cet enfant. Et donc, même si elle n'a pas été là pendant ces 4 heures-là, elle a été là quasiment immédiatement après.
Elle vous a accompagnée ensuite à domicile quand vous êtes rentrée?
Pas beaucoup. Elle est venue, oui, bien sûr, elle est venue. Et elle a été d'une écoute formidable. Mais j'ai été aussi très bien. Après, il y a eu la sage-femme qui était là. Enfin, sage-homme, en l'occurrence, j'avais un monsieur. Et ma maman, en fait, est rentrée avec moi, chez moi. J'ai pas été toute seule pendant même très longtemps, puisque les 5 premiers jours, ma maman était là. Ensuite, elle venait tous les jours. Et je n'ai eu à m'occuper de ma fille et de moi. Tout le reste de l'intendance était géré par ma mère. Et au bout de 2 mois, je suis allée me mettre au vert, où j'avais la maman, une tante, une amie, une voisine, où pendant donc 6 mois suivants, j'ai encore géré que ma fille et moi.
Vous aviez organisé tout ça en amont ?
J'avais prévu, oui. J'avais prévu, et je savais que j'allais avoir un enfant et un seul. Et je souhaitais pouvoir allaiter. Je savais que ce n'était pas forcément possible, mais je souhaitais. Et donc, j'avais prévu d'en profiter au max et d'être dans mon timing et pas dans celui de la société. J'ai eu cette chance-là. Voilà.
Super. Merci Aïda. Je vous propose maintenant qu'on rejoigne dans le salon d'à côté notre experte Maria Maswabi. D'accord. Bonjour Maria Maswabi, vous êtes avocate au barreau de l'Essonne, membre du bureau de l'association Maman Solo. Vous accompagnez au sein de cette association des femmes qui souhaitent devenir mères seules, et vous êtes également maman d'une petite fille de 3 ans et demi conçue au Danemark. Tout d'abord, Mariama, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui les mamans solo ?
Alors bonjour, merci déjà de nous inviter. Et comme vous l'avez dit, j'ai cette double casquette, j'ai cette chance d'avoir cette double casquette, ce qui fait que je comprends totalement ce qui se dit, ce qui se passe aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'une maman solo ? Alors, c'est le fait pour une femme célibataire de choisir de concevoir un enfant avec un tiers donneur qui n'aura pas du tout le statut juridique de père, c'est très important de le dire, et d'envisager cette maternité de manière totalement assumée en dehors d'un couple. Alors, j'insiste sur cela puisque, par opposition, il y a les familles monoparentales, où là, vous avez effectivement un chef de famille qui peut être un homme et ou une femme. Hélas, la plupart du temps, c'est une femme qui sera seule, mais parce que cela résulte d'une situation qui n'a pas été envisagée au moment de la conception de l'enfant. Et donc, pourquoi insister sur cela ? C'est que nous, en tant que maman solo, il faut savoir que c'est toujours une décision qui est mûrement réfléchie. Surtout, les mamans solo, même si le nom dit qu'elles sont solo, elles ne sont jamais totalement seules. Elles ne sont pas isolées, elles ne sont pas précarisées, malheureusement, comme la plupart des familles monoparentales. Et puis surtout, on se rend compte que c'est une situation qui est structurelle et qui est amenée à se renouveler, en tout cas, qui va être de plus en plus fréquente. Et là, je cite Serge Eiffez, qui est psychanalyste spécialiste de la famille, qui a dit « Si l'on prend en compte l'allongement des études et la difficile insertion sur le marché du travail, les femmes ont une fenêtre entre 31 et 36 ans pour faire un enfant. À cela s'ajoute la fragilité des unions. » Et tout est devenu compliqué. Donc, on se rend compte que oui, les femmes, bon, elles ont cette fenêtre qui est très, très courte pour concevoir. La plupart du temps, elles essayent de le faire tel que la société veut qu'elle le fasse. On a entendu tout à l'heure le faire de manière bio.
Plutôt traditionnel, voilà, un papa et une maman.
Traditionnel, on va dire.
Un homme, une femme.
Voilà. Et finalement, elles décident de prendre leurs responsabilités et elles le font avec les moyens que la médecine actuelle permet de faire.
En tout cas, dans ce que vous venez de dire, Mariama, il y a deux choses qui me semblent très importantes. La question du temps et de ce projet qui est très réfléchi. Voilà, ce n'est pas un caprice. Et moi, je le vois bien chez les femmes que j'accompagne. En effet, c'est souvent un projet qui prend du temps. Et puis, dans cette distinction, que ce n'est pas pareil aussi que ce projet d'enfant soit porté par une seule personne ou au sein d'un couple hétérosexuel ou homosexuel. Voilà, ça n'est pas aussi la même chose dans le devenir parent et pour aussi l'enfant à venir. Mariama, combien y a-t-il de mamans solo en France aujourd'hui ?
Alors, c'est une question qui est difficile puisque chiffrer de manière précise semble délicat, vu que la plupart des mamans solo qui recourent à la PMA ne le disent pas forcément. Donc, ce n'est pas une population qui est facilement joignable. Et puis, être maman solo, là, on parle de PMA, mais il y a aussi différentes autres manières d'y parvenir. Ça peut être une relation sexuelle avec un inconnu, ça peut être une insémination artisanale, donc soit avec un ami, ou alors il existe des sites avec des personnes qui proposent de donner leur sperme. Alors, situation assez glauque, assez dangereuse, mais bon, ça existe.
Et oui, puis, juste pour revenir sur cette question de ces sites de coparentalité, ça me semble important.
Ce n'est pas la coparentalité, parce que la coparentalité, ça peut être alors un exemple type. Un homosexuel ou un couple d'homosexuels qui décide de prendre attache avec un couple de lesbiennes ou alors une femme, etc. C'est pas du tout la même chose.
Alors, en effet, il y a la question de la coparentalité, mais là, je pense notamment à une femme que j'ai accompagnée qui était sur un site, mais qui ne cherchait pas un coparent, mais qui cherchait un donneur via ce site internet. Et moi, j'alerte souvent la question des dangers, déjà de s'assurer que cette personne souvent demande en échange quand même des relations sexuelles. Est-ce qu'elle est stérile ou pas ? Parce qu'il y a des hommes infertiles en recherche de relations sexuelles sur ces sites-là, de maladies, etc. Et puis des hommes qui disent seulement qu'ils veulent être donneurs et puis qui vont faire des reconnaissances anticipées de paternité. Donc des femmes qui vont se retrouver à partager une parentalité ce qui n'était pas leur souhait. Voilà, donc totalement. C'est important d'alerter sur ces dangers et ces risques-là.
Oui, totalement. Et pour en terminer, on essaye d'avoir les derniers chiffres pour savoir exactement quelle population est concernée par cette PMA. Il y a un article de La Croix qui est sorti fin janvier, qui a été rédigé par Lou Besmont, qui a réussi à contacter différentes cliniques en Belgique et en Espagne pour essayer de chiffrer. Toutes n'ont pas répondu. Et puis bon, malheureusement, oui, c'est limité à la Belgique et à l'Espagne, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, on a le Danemark, le Royaume-Uni, l'Ukraine, la Grèce, le Portugal et tout un tas d'autres pays. La République tchèque. Et du coup, le résultat de son enquête a permis d'établir qu'il y avait environ 2400 femmes qui partaient chaque année en Belgique et en Espagne.
Jusqu'à alors, voilà, vous nous avez parlé de la loi de bioéthique qui vient d'être révisée, en tout cas jusqu'à maintenant, les femmes seules ne pouvaient pas bénéficier en France d'un don de sperme. Du coup, ce qui a été votre cas, vous, Aïda, est-ce qui vous a amené... alors en plus, il y avait la question du double don, ce qui était... voilà, les femmes seules ne pouvaient pas avoir accès ni à un don d'ovocyte, ni à un don de sperme en France. La loi, du coup, a changé. Voilà. Que va-t-il se passer pour ces mamans solo dans les années à venir ?
Alors, la loi n'a pas changé. Pas encore. Et on croise les doigts pour que d'ici cette année, en tout cas d'ici cet été, la loi passe. Mais même si la loi passe, lorsqu'on étudie le projet tel qu'il est présenté à l'Assemblée nationale, il y a quand même un certain nombre de verrous, pas mal de limites qui sont posées, qui font qu'elle passera, mais avec... tellement d'anicroche que finalement les femmes partiront à l'étranger. Et il y a la question, par exemple, du remboursement de la sécurité sociale qui fait que, j'ai envie de dire, en mettant à la place de certaines femmes, quitte à payer, autant aller dans un pays où la technique est un peu plus à la pointe que ce qui est proposé en France, où il y a tout un tas de difficultés qui se posent. Bon, hein, il y a ce problème de remboursement de la sécurité sociale. On a aussi cette situation qui me paraît un petit peu loufoque, où la France a ratifié un protocole, le PIDESC, donc protocole international sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui englobe aussi le droit à la santé procréatrice. Et ce protocole, à aucun moment, on ne dit que, ok, tout le monde a droit à la santé procréatrice, sauf les femmes célibataires. Mmh. Voilà. Donc, voilà.
Ouais, là, vous soulignez bien, en effet, les hypocrisies et puis les incohérences aussi, voilà, du système. Vous, Aïda, voilà, vous êtes allée en Espagne. Alors, dans les femmes que j'accompagne, le choix du pays étranger se pose aussi par rapport à la question de la levée de l'anonymat, du don. En Espagne, est-ce que c'est possible d'avoir accès, si on parlait du Danemark, par exemple, voilà, au Danemark, à partir de 18 ans, si je ne me trompe pas, l'enfant peut avoir accès à des informations sur son donneur. En Espagne, est-ce que c'est le cas, par exemple, ou en Belgique ?
En Espagne, le don est anonyme. Dans pas mal de pays actuellement, alors on a des législations qui sont assez différentes, donc ça risque d'être beaucoup trop long à développer. Alors on essaie de lister les différents pays, donc sur le site internet de l'association et sur le groupe Facebook, pour que les personnes puissent avoir l'information la plus complète possible. Il y a aussi l'association Origine qui, elle, intente des actions pour essayer de forcer la main à l'État français pour lever l'anonymat pour les personnes nées avant l'entrée en vigueur de la loi. Voilà.
Aïda, est-ce que vous avez eu des questions sur le donneur, les donneurs, le donneur de sperme et la donneuse d'ovocytes ? Est-ce que...
Alors, j'ai eu des informations par la clinique.
Mais est-ce que ça vous a posé des questions, voilà, d'avoir recours au don ?
Au début de ma recherche, je me suis renseignée sur Cryos notamment. Je suis très, très, très contente de ne pas avoir eu à décider...
du donneur, de choisir le donneur.
De l'affiche, voilà, l'affiche du donneur. Vraiment, je suis ravie. La voix du monsieur sur sa lettre. Voilà, c'était beaucoup plus simple. Et pour moi, ça a une importance très relative au 21e siècle, parce que ma fille est au courant, déjà depuis que j'entends son cœur. Elle sait, elle a entendu les mots de comment elle est arrivée, pourquoi elle est là, etc. Régulièrement, quand l'occasion se présente, c'est redit, jusqu'à ce qu'elle comprenne et qu'elle me pose les questions plus tard. Et au 21e siècle, si on veut savoir l'origine de son donneur, c'est très facile. Donc si à 18 ans, elle a envie de le savoir, je l'accompagnerai dans cette envie de le savoir. J'ai cru comprendre, mais je n'ai pas poussé ma recherche, que 5% des enfants nés d'un don de sperme, en tout cas, puisque le don d'ovocyte est probablement plus récent, ne cherchent pas vraiment, s'ils sont heureux, le géniteur. Maintenant, si ma fille veut savoir la nationalité et même qui il est, ça sera très facile de le savoir.
Mmh. Bon, ça reste aussi difficile pour bon nombre de personnes, voilà, d'avoir accès à leurs origines. En effet, les tests ADN se sont énormément développés, mais voilà, il y a quand même beaucoup de personnes pour lesquelles ce parcours reste quand même très difficile et douloureux.
J'aimerais juste rebondir sur un point, ce n'est pas rechercher le père, hein, parce que alors c'est vraiment très important de dire que c'est un donneur, parce que c'est une personne qui donne du matériel génétique, des gamètes, mais qui n'a pas du tout ni le statut juridique de père avec tout ce que cela peut impliquer en termes de droits et d'obligations, ni ce n'est pas lui qui élèvera l'enfant, ce n'est pas lui qui lui transmet de l'amour, ce n'est pas lui qui sera là lorsque l'enfant aurait de la fièvre, etc. Mmh. Donc c'est vraiment un donneur, et l'enfant ne cherche pas à créer un lien. La plupart du temps, c'est pour connaître son histoire biologique. Voilà. C'est pas pour rechercher une personne, surtout...
C'est pas pour chercher un père ou une mère,
c'est comprendre connaître leurs histoires. Et lorsque vous parliez de fiches tout à l'heure, c'est vrai que ça peut être un petit peu déroutant, on a l'impression d'avoir des catalogues ou autres, mais la plupart des personnes, c'est vraiment pour avoir la fiche médicale, l'histoire médicale, pour éviter, un exemple tout bête, des tâtonnements lorsque l'enfant sera malade. Donc c'est pertinemment que pour mieux soigner une personne, il est important d'avoir toutes les données,
les antécédents médicaux,
donc son histoire médicale, son histoire familiale, etc. Et les gens, faut sortir du fantasme de la femme qui va chercher le grand blond d'un mètre 80 qui est peut-être prix Nobel, etc., etc. Certaines sont totalement déroutées par la somme d'informations qui est donnée, mais c'est aussi une somme d'informations qui peut être mise dans une sorte de boîte de trésor pour l'enfant plus tard, pour avoir savoir comment.
En tout cas, là, vous nous dites bien toutes les deux qu'il y a des femmes qui vont avoir besoin d'avoir un minimum d'informations et d'autres qui n'en ont pas besoin, ce qui a été votre cas, Aïda, ou pour vous. Voilà, finalement, j'entends dans ce que vous dites que ces dons sont intégrés.
Ces personnes qui le font, parce que je crois qu'il faut être bon pour faire un don, que ce soit une dame ou un monsieur, même si pour la dame c'est plus contraignant. Moi, en tout cas, j'ai envie de dire à ma fille que ces personnes-là ont été bonnes et que c'est beaucoup de générosité. Si je peux revenir sur l'histoire du père ou du papa, j'entends absolument votre raisonnement et que je trouve très, très bon, mais... Il y a forcément un père, il y a forcément quelque chose. Et assez vite, ultérieurement, selon l'enfant, mettre le mot géniteur, bien entendu. Mais la première fois qu'elle va me le demander, je ne vais pas lui dire « t'as un géniteur ». Je ne crois pas. A priori, après je n'y suis pas, on verra en effet ce jour-là. Mais ça me semblait intéressant de dire père, même si je vous rejoins complètement sur le fait que, dans l'absolu, nous, avec des parents, un père a été ce qu'il est, il était avec nous.
Voilà. Alors, on a listé un certain nombre de livres, et bon, on regrette que ça n'existe pas énormément en France, mais il y a quand même quelques livres français, mais énormément de livres anglais qui, justement, expliquent comment parler à l'enfant, mais vraiment dès tout petit. Et pour le coup, le fait de dire à par exemple, à ma fille, un père, elle a 3 ans et demi, mais elle sait, elle le dit, non, je n'ai pas de papa, j'ai un donneur. Et on a un livre, notamment Our Story, qui est très, très bien fait. Même pour les personnes ne parlant pas anglais, c'est assez simple. Et on explique le cheminement. Tout au long de l'histoire, on explique que ce n'est pas un papa, c'est un donneur. Et on explique à l'enfant que, justement, ce n'est pas un papa, qui ne fera jamais partie de notre vie, mais c'est quelqu'un de très, très généreux, qui, d'où le terme don, qui en français, pour le coup, en plus, c'est une connotation assez forte et de l'altruisme. Il a fait un cadeau sans attendre de retour.
En tout cas, ce que vous dites là, c'est qu'il n'y a pas rien. Et c'est comment finalement chacun aussi, en fonction de son histoire et de ce qui lui parle, va construire cette histoire et comment le roman familial va se construire aussi avec l'enfant. Il va évoluer, bien évidemment, en fonction de son âge. Votre fille, elle a quel âge aujourd'hui, Aïda ?
Dans quelques jours, elle a 2 ans.
En tout cas, vous évoquez que finalement, bon, elle commence un petit peu à parler, mais elle n'est pas encore pleinement peut-être capable de poser des questions. Vous avez anticipé ces questions. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très important, de prendre le temps d'y réfléchir, parce que souvent, les questions des enfants arrivent jamais au moment où on s'y attend. Hein, ça nous désarme toujours un peu. Et que le fait d'y avoir réfléchi en amont que c'est quelque chose qui permet de se sentir aussi un peu plus solide pour répondre aux questions et que les enfants ont besoin voilà, de ça, de sentir que leurs parents... il est solide et il ne va pas se sentir mis à mal. Et ça m'évoque même toutes les situations d'adoption où quand il y a des difficultés, finalement, les difficultés sont toujours remises sur la question de l'adoption ou comme si là, pour le don, s'il y a des difficultés dans le développement de l'enfant, tout ne soit pas mis sur cette question aussi du don. Que les choses gardent leur place, ça me semble important.
Et je terminerai sur un point qui, bon, personnellement, m'a choquée lorsque je l'ai appris récemment. Il n'y a que 2 donneuses d'ovocytes noirs pour toute la France métropolitaine. Or, il y a quand même un peu plus de femmes noires que cela qui demandent à bénéficier d'ovocytes. Et donc, c'est particulièrement perturbant.
En tout cas, là, du coup, vous amenez la question, moi, que beaucoup de femmes que j'accompagne se posent, c'est comment le donneur est choisi. Et souvent, le donneur ou la donneuse, hein, en effet, sont choisis sur des critères morphologiques, phénotypiques, parce qu'on sait quand même aujourd'hui que quand le parent peut se reconnaître dans l'enfant, reconnaître un peu de lui, alors ça peut être par des ressemblances physiques, mais ça peut se faire évidemment de plein de manières différentes, que c'est quelque chose qui peut aider au lien.
Alors, c'est ce qui s'appelle l'appariement. Alors, à titre personnel et aussi dans le cadre de l'association, on est contre dès lors que c'est imposé. Que la personne puisse choisir, pourquoi pas, si elle veut que l'enfant ait les mêmes caractéristiques phénotypiques pour des questions d'intégration, entre guillemets, pourquoi pas, mais que ce ne soit pas imposé, notamment pour la raison que je viens d'évoquer, le fait qu'il n'y ait que 2 donneuses d'ovocytes noires fait que, du coup, toutes les femmes noires sont amenées à traverser la frontière. Et aussi parce que, j'ai envie de dire, lorsqu'on essaie de concevoir un enfant, on essaie de concevoir un individu à part entière, pas un clone de soi. Et autre chose, je me dis, on est dans une société qui est assez métissée, en tout cas la région parisienne du moins. Donc qu'on vienne imposer à une femme d'origine méditerranéenne ou noire ou asiatique qu'elle n'ait d'autre choix que d'avoir un enfant qui lui ressemble, alors que peut-être que dans son parcours de vie, elle a fréquenté des personnes qui ne lui ressemblaient pas forcément. Je trouve que c'est un petit peu dommage parce qu'en plus, ça vient freiner son accès à la maternité. Et d'ailleurs, certaines femmes dans l'association, lorsqu'elles vont dans un pays, elles essaient aussi de voir si cet appariement est imposé ou pas. Et certaines ont pu aller ou ne pas aller en Espagne parce que justement, il y avait cet appariement. Et le fait est que c'est un élément qui a été retenu dans le projet de loi et qui, bon... s'il passe, malheureusement, fait que toutes les femmes non caucasiennes auront à traverser la frontière également.
La première question que je me suis posée, c'est est-ce que mon frère et moi, nous sommes issus du même donneur ? Parce que j'avais besoin de me représenter ce géniteur dont j'ignore tout, qui du coup peut être absolument n'importe qui, quelqu'un de bien, quelqu'un peut-être d'un petit peu moins bien, voire de pas bien du tout. Juste mettre un tout petit peu d'humanité dans ce mode de procréation qui est une belle histoire, mais qui aujourd'hui manque de liens humains.
En tout cas, ces questions-là, parce que moi, c'est dans les femmes que j'accompagne, hein, toutes ces questions autour du donneur, de la dimension génétique, de la transmission, c'est quand même voilà, des choses qui, souvent, alimentent un bon nombre de séances. Et souvent, voilà, je leur évoque aussi la question de l'épigénétique. Et on sait aujourd'hui hein, que le même embryon mis, déposé dans l'utérus d'une femme ou dans l'utérus d'une autre femme ne donnera pas le même enfant. Et que la question de l'expression des gènes aussi dépend de l'environnement dans lequel ces gènes vont s'exprimer. Donc, parce que souvent, j'entends quand même pour ces femmes l'importance de l'enfantement, l'importance de la grossesse. Voilà, que c'est pas pareil qu'un projet d'adoption. On va accueillir un enfant qui a déjà une histoire et qui a déjà une histoire de conception. Dans le fait de décider d'avoir un enfant seul, c'est aussi le choix de porter cet enfant et tout ce temps de la grossesse va aussi façonner d'une certaine manière cet enfant et permettre, même s'il y a double don, aussi à la maman de s'approprier la grossesse, le bébé. Et ça peut avoir un rôle important, évidemment, dans la construction de la maternité, de la parentalité.
Alors, totalement. Alors, vous avez tout dit, donc je vais juste rajouter une phrase qui, moi, m'a paru tellement belle, tellement poétique, de Laure, l'une des cofondatrices de l'association, qui justement dit par rapport à sa fille, elle n'a pas mes yeux, mais elle a mon regard. Et donc, ça exprime tout ce que vous venez de dire sur l'épigénétique et que finalement, tout ne se résume pas à l'ADN. Voilà.
Bien sûr, oui, que cette question finalement de la transmission, en effet, elle est bien plus large que la dimension génétique. Mais voilà, que parfois, il faut quand même un temps. D'ailleurs, Aïda, vous nous disiez, quand vous avez su que vos trompes étaient bouchées, que ça ne serait pas votre ovocyte. Ça a été quand même sur le moment un coup de massue.
Oui, parce qu'en fait, ça ne pouvait pas prendre le chemin, la voie naturelle prévue.
Ouais. Alors du coup, j'aimerais revenir sur cette question de la place du géniteur, du père, parce que c'est souvent aussi une question qui revient très régulièrement et sur laquelle aussi les femmes peuvent se sentir très attaquées, c'est il n'y a pas de père, ou l'inquiétude de ne pas donner un père à son enfant. On sait aujourd'hui que finalement, ce qui est important pour l'enfant, c'est d'avoir des figures parentales, maternelles et paternelles, que ces figures peuvent être portées par un homme ou une femme, et puis l'importance surtout que ce tiers finalement soit présent dans l'esprit de la mère, parce que parfois il est présent physiquement, mais il n'est pas forcément présent psychiquement, mais qu'il soit présent psychiquement dans l'esprit de la mère pour permettre à l'enfant de sortir de la fusion maternelle qui est nécessaire dans les premiers temps de la vie. Dans ce que vous avez vécu, Aïda, vous avez parlé de peur. Alors, moi, dans les mamans que j'accompagne, il y a la question parfois de la culpabilité, de l'inquiétude, la peur de l'isolement et de l'épuisement, notamment une fois que l'enfant est là et qu'il faut gérer seul. Est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile? Alors, vous nous avez dit à quel point vous avez été accompagnée par votre entourage et les professionnels, mais est-ce qu'il y a pu avoir des moments difficiles?
Oui, ce sentiment d'isolement, je l'ai ressenti assez peu, mais je l'ai quand même ressenti parce que je me souviens l'avoir réellement exprimé à mes proches. Il a peut-être duré quelques mois, je dirais 6-7 mois. Alors, entre les 7 mois de ma fille et puis plus 6-7 mois, ça a été le premier hiver, l'entrée vers le printemps. Je l'ai exprimé, ce mot. J'ai le sentiment d'être isolée. Voilà, puis l'été, le printemps est arrivé, ça a repris le dessus. Mais je pense que c'est pas du tout fait dû au fait que j'ai été maman solo. D'accord. Je crois que toutes les mamans ont vécu ce sentiment d'isolement, donc il n'est pas du tout
Est-ce que dans les mamans que vous accompagnez, Mariama, il y a des femmes qui peuvent souffrir d'être seules, se sentir en difficulté? Là, je pense aux nuits, quand l'enfant est malade. C'est vrai qu'au sein d'un couple, ça permet quand même d'avoir un relais.
Ou pas.
Ou pas, parfois, c'est vrai. Pas.
Parce que, alors, pour le coup, là, c'est la casquette avocate qui ressort. C'est que, finalement, dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai pu voir que certaines femmes en couple, finalement, étaient beaucoup plus isolées. Alors qu'elles sont en couple, qui a le conjoint, normalement, qui est là, mais qui est parfois totalement désinvesti. Ou alors, parce qu'on part du principe que toi, tu restes à la maison, moi, je travaille, donc il faut que je me repose parce que je dois me lever tôt demain, etc., etc. Et donc, cet isolement, on le ressent pas forcément de la même manière chez les mamans solo, où justement parce qu'elles sont solo, elles sont entourées, coucounées. Il y a vraiment tout ce tissu familial, social qui se forme presque pour l'aider, pour l'accompagner, parce que je ne dis pas, on va pas idéaliser, je ne vais pas dire que toutes les mamans solo sont dans ce cas-là, mais beaucoup dans le cadre de l'association ont été énormément entourées. Aïda tout à l'heure parlait d'une situation idyllique avec sa maman qui était présente, et puis pendant les 6 mois suivants, elle était accompagnée, aidée. Moi, dans mon activité professionnelle, on a des femmes qui justement ont une charge mentale qui est beaucoup plus importante parce qu'elles reviennent d'accouchement, elles doivent gérer leur postpartum, parfois des enfants qui sont là et un mari, donc il faut aussi choyer. Et elles ne sont pas aidées. Donc j'ai envie de dire, sans pour autant comparer les deux situations, finalement les mamans solo, elles sont solo mais pas isolées. Et en tout cas, j'ai envie de dire, la charge mentale en postpartum et après est bien moindre que certaines femmes en couple, malheureusement.
Bien sûr. Du coup, comme vous nous l'avez dit, Aïda, cette question de la matrice de soutien, c'est quelque chose dont on parle souvent dans parentalité. Finalement, qu'on soit en couple ou seul, il y a besoin d'une matrice de soutien. Vous, Aïda, vous aviez beaucoup anticipé. Alors, c'est souvent ce que je suggère aussi aux femmes que j'accompagne, d'anticiper cette période de postpartum difficile. D'ailleurs, je le dis aussi pour les couples. Dans les premiers temps, les visiteurs, ils amènent le repas, de pouvoir être déchargés de la gestion du quotidien, de la maison, des tâches ménagères, etc. Et en tant que maman solo, davantage de l'anticiper, de l'organiser pour se sentir entourée, se sentir soutenue, c'est important.
Oui, moi en fait, non seulement effectivement, donc il y avait ma maman qui était là beaucoup, il y avait Erika, la doula, le sage-homme, mais figurez-vous que je refusais les visites. Je demandais une visite par jour. Parce que je me disais, je crois que c'est important de ne pas me fatiguer, ça je l'avais compris. Ma doula avait eu 4 enfants, elle m'avait dit, tes amis seront là encore plus tard, donc c'est pas grave. Et je crois vraiment que le fait de m'être protégée, mais pas des autres, mais pour être bien avec moi et avec ma fille, j'avais même pas envie de sortir, j'étais bien chez moi, dans un petit cocon.
Moi, sur cette question de soutien, j'aimerais insister aussi sur un point qui montre aussi l'ouverture de la société par rapport à cela, parce qu'on a l'impression que les femmes, les mamans solo, finalement, vu qu'elles sont officiellement en illégalité, on a l'impression qu'elles se cachent, etc. Mais elles sont beaucoup soutenues, elles sont beaucoup aidées. Nous, dans le cadre de l'association, on voit au fur et à mesure, plus on en parle, plus on se rend compte que finalement, ça intéresse des femmes qui n'y avaient pas forcément pensé et se disent « Ah, bah oui, finalement, c'est aussi une autre façon de faire famille qui est totalement légitime. Et ce soutien, il existe même dans les milieux, j'ai envie de dire, que l'on considère comme traditionnel. L'une de nos cofondatrices, Anne-Sophie, qui vient d'un milieu tradit catholique, elle appréhendait, mais elle a été très soutenue par sa famille. Sa grand-mère lui a presque donné une sorte de feu vert parce qu'elle était particulièrement enthousiaste. Pour elle, c'est normal.
Et puis, voilà. Il peut y avoir cette peur du jugement, mais au final, qui n'existe pas.
Et puis, à titre personnel, avec une famille musulmane, là aussi, j'appréhendais de le dire. Et puis finalement, tout le monde avait hâte. À la limite, je me dis, j'ai trop hâte. Attendu. Et pour ma mère, il y a un mot qu'elle a dit qui, là aussi, m'a libérée. C'est pour elle, l'essentiel, c'est la vie. Et je me dis, il y a une évolution qui fait que les femmes, heureusement, qui se retrouvent à choisir de concevoir de cette façon-là, ne sont pas isolées. On n'est plus à une époque où, finalement, on risque le bannissement. Elles sont soutenues par leurs amis. Aïda dit qu'elle avait ce luxe de pouvoir sélectionner, parce que ça veut dire que tous les amis voulaient venir aussi l'aider. Donc voilà, il y a ce soutien qui est réel et qui n'est pas juste une façon de parler pour faire la promotion de la famille monoparentale.
Ça m'amène à penser, voilà, toutes ces questions aux remarques, aux réflexions qu'on peut entendre sur le devenir de ces enfants nés de maman solo. Et en effet, pour un enfant, de savoir qu'il a été attendu, désiré, c'est déjà quand même un grand moteur dans la vie et que c'est quelque chose qui est très important. Peut-être le risque serait le risque de surinvestissement.
Et j'imagine que l'enfant qui va naître sera choyé, aimé, mais peut-être aussi il y aura un surinvestissement. Et après, c'est un travail que feront les parents. Mais finalement, dans le cheminement des mamans solo, on se rend compte que tout est projeté, toute la réflexion se fait dans l'intérêt de l'enfant. C'est que beaucoup mettent du temps à se lancer parce qu'elles font des recherches pour savoir si réellement elles font le bon choix, qu'est-ce qui sera bien pour l'enfant, qu'est-ce qu'il faudra leur dire, etc. etc. Et jusqu'à présent, on critique beaucoup ce choix en pensant que ce sont des femmes capricieuses qui
un choix égoïste.
Oui, ce n'est pas pour se faire plaisir, comme je l'ai entendu dans une manif.
Ce n'est pas pour se faire plaisir. Et surtout, finalement, je me dis, enfin, depuis quelques mois, on donne la parole à ses enfants, puisque finalement, on parle d'eux depuis quelques années. On donne la parole à ses enfants. Alors, il y a un article des Inrocks qui est sorti cet été où des enfants nés de PMA, de femmes seules ou de couples de femmes disent qu'ils vont bien, tout va bien. On a eu des études qui ont été menées pendant des années aux États-Unis qui démontrent que les enfants nés dans ce cadre de figure non traditionnel vont bien. Et deux articles aussi, alors il y a eu Femina, je crois que c'était en novembre, il y a eu plusieurs articles où la plupart des enfants vous disent nous allons bien. Finalement, même si ça peut paraître gnangnang, j'ai envie de dire, mais tous mettent en avant le fait que, oui, ils ont été désirés et quel moteur magnifique. Le fait qu'il y ait l'amour.
Ils ont de l'amour.
C'est finalement le plus important. Et là, si ça peut rassurer les gens, pour une fois, on donne la parole aux principaux concernés.
Aïda, vous avez, et Mariama aussi, beaucoup souligné cette question de l'accompagnement, de la place des proches, de l'entourage, les associations, on a parlé Origine, PMA Anonyme, Maman Solo, bien évidemment, que vous représentez. Il y a aussi Maya, les Cigognes de l'Espoir, et ces associations qui proposent pour certaines des groupes de parole, des lignes d'écoute, des forums de discussion, donc de ne pas aller hésiter à aller toquer, se renseigner, rencontrer ces personnes. Il existe aussi des consultations spécialisées, des psychologues spécialisés sur ces questions-là.
Alors, juste pour dire que c'est important de se dire qu'il y a tout ce dispositif qui existe, parce que l'une des choses qui me paraît importante à souligner, c'est de dire à ces femmes-là qu'elles ne sont pas seules. Ce n'est pas un épiphénomène. Ça existe depuis longtemps. C'est juste que jusqu'à présent...
Oui, ce n'est pas un fait nouveau. On en parle aujourd'hui.
Jusqu'à présent, on faisait ça dans son coin et... et de dire que voilà, on existe et nous sommes des familles comme les autres finalement.
En tout cas, dans tout ce que vous nous avez dit, Aïda et Mariama, je crois, j'ai vraiment entendu cette question d'être à l'aise avec son histoire, de pouvoir avoir pris le temps de répondre à toutes les questions qui se sont posées, de cette fée peut-être accompagnée comme vous, Aïda, pour prendre le temps d'y réfléchir, et que finalement, quand on est à l'aise avec son histoire, l'enfant aussi sera confortable avec celle-ci. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Aïda, est-ce que vous auriez une lecture ou un conseil à donner aux mamans solo ou aux futures mamans solo qui nous écoutent ?
Cette fameuse psy en EMDR m'avait glissé le livre « Le mystère des graines à bébé
». Qui est un livre pour les enfants.
Voilà, et j'ai adoré ce petit livre, évidemment, qui ne parle pas exactement de la maman solo, mais qui évoque beaucoup de comment arrive l'enfant, les diverses manières. D'ailleurs, il n'y a pas l'enfant qui arrive chez une maman toute seule dans ce livre encore.
Ouais.
Et j'ai beaucoup aimé un film que j'ai vu il y a quelques mois, Pupille, de Jeanne-Henri, qui ne parle pas de ça particulièrement, mais qui est absolument divin et qui met à l'honneur les services sociaux, certes, qui ont un grand rôle.
Et l'observation du bébé.
Ouais, c'est ce absolument délicieux.
Dans ce film. Mariama, est-ce que voilà, vous auriez des choses à recommander ?
J'en ai plein, mais je vais me limiter parce que, pour le coup, j'invite tout le monde à aller sur notre page Facebook et puis sur notre site où on liste
voilà, ces références.
Les références pour les mamans, pour les enfants. Et si j'ai un livre à recommander, c'est Olivia Agnitel qui a écrit PMA pour mon amour, qui retrace avec beaucoup d'humour tout le parcours des femmes, des mamans solo. Et puis, il y a aussi un film, pour le coup, L'enfant de tous les possibles, où on voit justement le cheminement, pas que de maman solo, mais de toutes les autres personnes susceptibles de pouvoir concevoir hors des clous, comme on dit. Donc voilà. Et si j'ai un mot pour, on va dire, conclure, bon, avec un peu d'humour, c'est une citation, alors il n'y a pas plus geek, hein, mais c'est une citation du docteur Ian Malcolm dans Jurassic Park qui dit que la vie trouve toujours un chemin. Et vraiment, pour le coup, pour en terminer, il y a une citation d'une femme sur notre site, Virginie, qui dit que exister socialement sans un mec, ce n'est pas un problème, mais être privée de devenir mère, impossible pour moi. Le chagrin d'amour peut être terrible, mais ça passe. Par contre, ne pas être mère quand on le désire viscéralement, ça ne passe pas. Voilà.
Merci Mariama. Alors moi je donnerais juste quelques autres références. Pour les enfants, en effet, vous avez dit Le mystère des graines à bébé de Serge Tisseron. Dans notre histoire, il y a une fée de l'association Maya, Amstram Graham de Anne-Catherine Leroux. Vous avez cité donc le livre d'Olivia Nittel, PMA mon amour. Il y a aussi d'autres témoignages. Je suis l'une d'entre elles de PMA anonyme. Le fils d'Arthur Kelmarvezen dont on parlait tout à l'heure. Et puis il y a des livres un petit peu plus techniques, notamment écrits par Dominique Mel, Enfant du don, PMA, parents et enfants témoignent, et puis maternité solo. Merci beaucoup Aïda d'être venue témoigner de votre parcours pour devenir mère. Merci pour votre optimisme que vous nous avez offert aujourd'hui.
Je crois que ça s'impose à soi. Et c'est vrai que vous avez raison. Mariama, il faut que si on en a envie, que ce soit possible, naturellement et chez soi.
Merci beaucoup Mariama Swaby, je rappelle que vous êtes avocate et membre du bureau de l'association Maman Solo. Merci d'être venue partager avec nous votre expérience. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.